Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, tout le monde, moi ça va bien. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai été opéré parce que j'ai le tendon d'Achille qui a lâché il y a un an, et puis il y a eu un mauvais diagnostic, ils ont pensé que c'était une foulure, et puis on m'a mis une attelle qui n'était pas adaptée, alors le tendon s'est bien remis, mais il y avait un léger boitement. Alors pendant à peu près un an, j'ai marché en boitillant, ça faisait plus mal, mais tout à coup, voilà que ça a commencé à biaiser le bassin, ce qui fait que j'ai eu une tendinite. Alors la tendinite, je n'aime pas du tout, hein. Je ne sais pas si vous aimez ça, vous. Alors j'ai demandé, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, le mieux, c'est, on va vous opérer. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Alors écoutez, quand même, c'est extraordinaire, on vit dans une époque extraordinaire. Le chirurgien a enlevé le tendon d'Achille, c'est-à-dire le tendon qui va du mollet jusqu'au talon. Il l'a donné au chat, qui s'est régalé avec une petite sauce au capre. Ils ont fait trois petits trous dans mon pied, on n'y voit presque rien. Et ils ont pris le tendon du gros orteil, et puis ils l'ont mis à la place du talon d'Achille. Et vous savez ce que le médecin m'a dit? J'ai même pas eu l'occasion de lui parler de Jésus, c'est lui qui m'en a parlé en premier. Il m'a dit, textuellement, ma femme était là. Il m'a dit, vous savez, Dieu fait bien les choses. Il savait qu'un jour, il y aurait des chirurgiens capables de faire une telle opération. Eh bien, je suis un de ceux-là. Je vais vous opérer. Il y en a pour aller 10 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, dans 2 mois, vous pourrez lancer le rock'n'roll. je trouve quand même que c'est extraordinaire. Donc voilà, ben, je souffre pas. Je suis bien. Je me fais chouchouter par toute la communauté. C'est merveilleux. Et puis ce matin, je vous ai préparé un message qui est, pour certains, ça va être, comme disait notre ami Renaud Robinet, une aimable répétition, mais je pense qu'on a besoin de revenir souvent sur des choses qui sont principales. Et donc ce matin, on va faire une lecture dans Apocalypse 2, chapitre 2, versets 1 à 5. Je vous lis le texte. Voilà ce qui est écrit, c'est Jésus qui parle et qui dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Alors, je sais que vous qui m'écoutez depuis toutes ces années, vous connaissez ma position. Vous savez que je crois en Dieu, le Père, je crois qu'il s'est incarné. Et il est devenu la parole faite chair, Jésus-Christ, qui maintenant est retourné auprès du Père, qui s'est assis sur son trône, ça veut dire qu'il a pris autorité. Et puis je crois au Saint-Esprit qui vit dans les croyants qui sont nés de nouveau. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu qui se manifeste de trois manières principales. En tant que le Créateur, en tant que le Sauveur, Jésus-Christ, et en tant que l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui obéissons aux bonnes lois de Jésus. Parce que Jésus a quand même des lois. Hein. Aime ton prochain comme toi-même, aimez vos ennemis, etc., etc. Vous vous rappelez, je vous ai déjà enseigné ces choses. Par contre, il y a une chose que je ne crois pas, c'est dans les religions. Elles sont toutes frauduleuses. Toutes ces religions organisées sont pleines de haine déguisée en amour. Et il nous faut revenir simplement à l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres, sans souiller leur message avec des traditions qui ont été accumulées pendant des siècles et qui n'ont plus rien à voir avec ce que les Jésus et les apôtres ont dit en réalité. Le texte que j'ai lu, donc au début, tout à l'heure, là, s'adressait principalement à l'époque à une église qui se trouvait à Éphèse, mais c'est aussi un message prophétique qui s'adresse à toute l'église, dans son entier, dans tous les âges, donc aussi à nous. Et ce que je retiens surtout ce matin, c'est cette petite phrase, ce que j'ai contre toi, et c'est Jésus qui parle à son église, c'est-à-dire, il se peut aussi qu'il nous parle à nous, il faut vraiment être certain de là où nous sommes. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est les versets 4 et 5. Où est-ce que l'Église est tombée? D'où elle est tombée? Il nous est demandé de nous en souvenir. Il ne faut pas oublier ça, cacher ça, mettre ça dans un tiroir, puis dire non, non, il ne faut pas parler de ça, ça ne glorifie pas Dieu. Si, si, il faut en parler, il faut s'en souvenir. Il faut faire le point, il faut corriger les choses, se repentir. Il faut s'en souvenir. En fait, Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il nous le dit. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ben, tu es tombé là. C'est pas qu'on n'aime pas Dieu, on aime tous Dieu, tous les chrétiens aiment Dieu. Mais ils aiment moins les frères et sœurs. Au début, les frères et sœurs, ben, ils vivaient en communauté, ils vivaient tous ensemble, ils mettaient tout en commun. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Et ils partageaient. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Mais l'Église s'est corrompue quand ses membres ont commencé à abandonner leur premier amour. C'est-à-dire que, bon ben, il y avait certains frères qui étaient difficiles, certaines frangines qui étaient un peu pénibles, puis ils se sont dit, oh, ça casse pied, et puis ils ont commencé à se séparer, à vivre chacun chez soi, en se voyant plus que 2-3 fois par semaine, et puis finalement à se voir le dimanche au culte. Et finalement, maintenant, les gens vont au culte ou à la messe, ils se connaissent même plus. C'est tout juste, ils se disent bonjour. Oh, ils peuvent aimer Dieu, mais s'ils n'aiment pas leurs frères et sœurs, créés à l'image de Dieu, leur amour pour Dieu, c'est une espèce d'imposture. La Bible nous dit clairement, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? C'est vrai, hein? Et puis aimer, c'est pas simplement avoir des sentiments, mais c'est prouver par des actions, par des actes. Et l'Église a perdu son premier amour, elle l'a laissé tomber. Et en laissant tomber ça, elle a laissé tomber aussi beaucoup de réponses. Et il y a des questions qui restent sans réponse. Et puis les gens inventent des réponses, n'importe quelle imbécilité. Et vous avez des gens qui sont complètement convaincu que la Terre a été créée il y a 6000 ans, que la Terre est plate, ou que je sais pas quoi, ou qu'il n'y a pas de créateur. C'est comme si je disais que ma montre n'a pas d'horloger, elle s'est faite toute seule comme ça, par hasard, sous une frite. Ça ne tient pas debout, enfin, ils ont toutes sortes de pensées. L'Église a perdu les réponses en renonçant à ses principes fondateurs. Quand Jésus est venu la première fois, il y a un homme qui l'a précédé. Cet homme, c'était Jean-Baptiste, et il avait en lui l'esprit d'Élie. Et l'esprit de Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie, criait que Jésus allait venir, que le Sauveur allait venir, et il criait « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Et aujourd'hui, de nouveau, cet esprit crie « L'époux vient aller à sa rencontre ». Vous savez, il y a cette parabole qui nous dit que les vierges folles et les vierges sages dorment, mais qu'il y a une voix qui crie « L'époux vient ». Eh bien, moi, je veux être cette voix qui crie « L'époux vient ». Alors, je sais que ça dérange. Je me prends pas pour Élie ou pour Jean-Baptiste, hein. Je vous rassure tout de suite, je suis pas une espèce d'illuminé. Mais je crois que c'est le temps où cette voix doit se faire entendre. « L'époux vient » et il faut aller à sa rencontre. Mais comment aller à sa rencontre? En faisant quoi? En allant à l'église, poser son derrière, chanter des cantiques, danser comme ils font en Afrique, lever les mains, pleurer, user des Kleenex. Non. En faisant quoi? Ben, Jésus le dit, repentez-vous. Commencez par vous repentir, mais se repentir, ça ne suffit pas. Le texte que nous avons lu, Jésus nous dit clairement, et pratique tes premières œuvres. Fais ce qui était fait au début. Et si on ne fait pas ce qui était fait au début, ben, on peut avoir toutes les religions et la meilleure religion du monde, on est à côté de la plaque. Quelles étaient les premières œuvres de l'Église avant qu'elle tombe? Eh bien, c'est écrit dans, principalement, Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4. C'est là où il nous est raconté comment l'Église a été organisée. Et il n'y a pas d'autre texte dans la Bible qui nous dit que l'Église a été organisée autrement. Elle a été organisée comme ça. C'est-à-dire que les gens se repentaient, étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, recevaient le Saint-Esprit, vendaient leurs biens, mettaient aux pieds des apôtres et vivaient tous ensemble, prenaient leur repas tous ensemble, ils prenaient soin les uns des autres, quand il y avait un besoin, tout le monde mettait la main à la poche, et il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et voilà comment c'était l'Église primitive. Et c'est ce que Jésus nous dit de faire. Fais ce que tu faisais au début. Souviens-toi d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. C'est ce que les chrétiens sont appelés à pratiquer. Alors, relisez dans votre Bible Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4 et pratiquez ce que vous allez y lire. Tous ceux qui se disent chrétiens et qui ne le feront pas, c'est parce que il y a plusieurs possibilités. Une des possibilités, c'est parce qu'ils aiment bien ronronner dans leur église. Oh, ils disent, tout n'est pas parfait, mais il n'y a rien de parfait dans ce monde. Mais au moins, on nous fout la paix. Hein? On ronronne bien tranquille tous les dimanches. Ça va, le pasteur ne nous embête pas trop. Il va juste visiter les malades. Et comme moi, je ne suis pas malade, ben, il vient jamais me visiter. Donc ça va, il ne m'embête pas. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. D'autres ne feront pas ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire vivre Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4. Ils ne le feront pas parce que ils sont sortis des églises, dégoûtés. Il y en a beaucoup. Et ils ne veulent pas prendre le risque de recommencer à vivre un amour fraternel parce qu'ils ont été déçus. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, la plupart des gens qui m'écrivent ça, qui ne veulent plus, qui vont plus à l'église, que voilà, ça va, ils ont déjà donné, ça suffit, il y a plein d'hypocrites. Ben, c'est vrai qu'il y a plein d'hypocrites, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire au sujet de l'église, mais voilà, c'est pas bien quand même de ne pas avoir de communion fraternelle dans la première église au début. Quand Jésus nous dit qu'il faut pratiquer les choses qui se pratiquaient, il est dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Si vous persévérez pas dans la communion fraternelle, bah, vous êtes comme un charbon qui est sorti du feu. Au bout d'un moment, bah, il s'éteint. Vous avez remarqué? Un charbon, quand on le sort du feu, bah, il devient tout gris, puis il s'éteint. Vous le remettez dans le feu, il redevient rouge, il se remet à brûler. Vous avez vu? Ben voilà, vous êtes peut-être sorti de l'église, puis vous êtes un peu gris, quoi. On était tellement déçus. Ils veulent plus essayer, ils veulent pas, ils osent pas recommencer à aimer sans condition. Parce qu'évidemment, ce qu'il nous est demandé, c'est d'aimer sans condition. C'est-à-dire, faire comme Jésus faisait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus nous a pardonné à l'avance nos péchés. On n'était pas nés. Et nous les a pardonnés avant même qu'on soit né, avant même qu'on ait péché, il a pardonné. Et il veut qu'on pardonne comme lui, il nous a pardonné. Ça veut dire que je dois pardonner ce méchant Dominique à l'avance. Dominique, c'est pas quelqu'un... Je crois que j'ai jamais eu besoin de pardonner Dominique. Il fait rien de mal, Dominique. C'est un homme de Dieu. Il est, depuis, ça fait bientôt 40 ans qu'il est avec nous. Et on doit pardonner à l'avance. C'est-à-dire qu'on a toujours un pardon d'avance. Et Ça donne une sécurité, on sait que les frères et sœurs vont pas nous rejeter, vont pas nous excommunier parce qu'on a fait une bêtise, parce qu'on fait tous des bêtises, sauf Dominique qui en fait pas. Non mais je plaisante pas, hein. Ceux qui ne le connaissent pas, eh ben, vous perdez quelque chose. Alors voilà, ils veulent pas aimer sans condition, ils veulent pas pardonner à l'avance, ils veulent plus, ils en marre. Et puis il y a d'autres personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont que de nom. C'est-à-dire, ils sont nés dans une famille chrétienne, et puis voilà. Moi, je me rappelle, Raphaël de Giton, il disait toujours, c'est pas parce que vous êtes né dans un garage que vous êtes une voiture. Et c'est la même chose, c'est pas parce que vous êtes né dans une famille chrétienne que vous êtes un chrétien. Pas du tout. On est chrétien parce qu'on choisit d'être chrétien, c'est un choix, c'est un engagement, on fait des alliances avec Dieu, et puis on s'engage à suivre le Seigneur. Et vous avez des tas de chrétiens qui sont des chrétiens de nom parce que ça fait partie de leur culture, mais ils ne sentent pas du tout le besoin de vivre ce que Jésus dit de vivre. Ils vivent en fait comme des païens. Ça dépasse leur entendement. En fait, moi, c'est ce que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Je croyais que j'étais chrétien jusqu'à l'âge de 18 ans. Je faisais même partie de la meilleure église de Suisse. Vous allez me dire, ah bon, il y a une église qui est la meilleure? Ben oui, elle s'appelle même l'église nationale. C'est une église nationale, les pasteurs sont rémunérés par nos impôts. Hein? Alors si vous trouvez quelque chose de mieux que ça, ben, c'est formidable ça, hein? Une église nationale. Ben, je me disais, je fais partie de la meilleure église, les autres c'est des sectes. Et puis jusqu'au jour où j'ai entendu l'évangile prêché, j'ai compris que j'étais pas chrétien. J'avais le nom, mais j'étais pas chrétien. Je vivais comme un païen. Et dans toutes ces églises corrompues, il y a quelque chose qu'il faut pas ignorer. Il y a des fils de Dieu, c'est vrai, dans toutes les églises. Mais il y a aussi des fils du diable, ce que la Bible appelle livrés. Le diable n'a pas pu programmer ses enfants avec l'amour, parce que l'amour il connaît pas, il sait pas ce que c'est. Le diable sait pas ce que c'est l'amour. Il possède pas l'amour. Comment voulez-vous qu'il donne de l'amour? Vous vous souvenez que quand Dieu a mis sa semence sur la terre, il nous a dit, c'est Jésus qui le dit dans Matthieu chapitre 13, le diable est venu de nuit et il a mis sa propre semence, hein, qu'on appelle livrée. Or, le bon grain est livré, Jésus nous le dit, ils poussent ensemble, on va le lire, dans Matthieu chapitre 13, verset 36-43, c'est Jésus qui explique la parabole, il explique, il dit, il renvoie d'abord la foule, parce qu'il veut pas enseigner à tout le monde ça, il l'enseigne seulement à ses disciples, à ceux qui sont capables d'entendre une parole aussi dure, parce que c'est une parole qui est très dure, il renvoie la foule, entra dans la maison et ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Ça les troublait. Alors il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » C'est-à-dire c'est Jésus, c'est le Créateur. « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin, les fils du diable. » L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et il rajoute que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Parce que vous avez des gens qui ont les oreilles mais qui n'entendent pas, c'est-à-dire ils comprennent pas. Le verbe entendre veut dire comprendre aussi. Hein. Ils veulent pas comprendre, enfin, du moins ils font semblant de pas comprendre. Ils disent, oh non, il n'y a pas des fils du diable. Si Jésus dit qu'il y a des fils du diable, il y a des fils du diable. Si Jésus dit que le diable est venu et qu'il a semé sa semence et puis qu'il y a une semence sur cette terre qui est sa semence à lui, au diable, c'est que c'est vrai. Jésus ne ment pas. Votre religion vous dit, mais non, les fils du diable, ça veut dire les gens qui obéissent pas à Dieu. Non! C'est les fils du diable. C'est pas simplement des gens qui obéissent au diable. C'est les fils. C'est le diable qui les a semés. Et il y en a dans l'Église, il y en a plein dans l'Église, malheureusement. Sur cette terre, dans les églises, il y a des fils de Dieu et il y a des fils du malin. Ce sont les fils du malin qui corrompent tout. Qu'est-ce qu'ils corrompent? Ben, pas seulement l'Église, mais la science, la politique, enfin tout, tout, ils corrompent tout. Et malheureusement, les fils de Dieu, Jésus nous appelle comment? Ces brebis, c'est-à-dire les moutons. Ben, on est là et puis on suit comme des abrutis. C'est malheureux à dire, mais les brebis du Seigneur sont très influençables. Et alors ils se laissent décourager, ils se laissent avoir, ils se laissent manipuler par les fils du diable. Puis après ils sont découragés. C'est dommage. Il faudrait se réveiller un peu les moutons. Hein? C'est pourquoi Jésus nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu as abandonné ton premier amour, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Alors oui, il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus va revenir, il va régner 1000 ans sur cette terre, mais la mauvaise nouvelle, c'est que avant de venir régner pendant 1000 ans sur cette terre, eh bien Dieu a laissé, et laisse toujours la terre, devenir un enfer. Vous avez des gens qui disent, moi je crois pas en Dieu, mais je crois pas en enfer, mais je crois que l'enfer c'est ici. Ils n'ont pas tout à fait tort. Le monde est rempli des fils du diable. Ils pullulent, il y en a partout. Des fauchetons, des hypocrites, des méchants, des assassins, tout ce que vous voulez. Des petites grand-mères à qui vous donneriez le bon Dieu, sans confession, comme on dit en Suisse. Et puis qui sont des vieilles charognes en réalité, pardon, mais c'est vrai. C'est comme ça. Il laisse cet enfer s'établir sur cette terre. Il laisse. C'est-à-dire, les enfants du diable, ces enfants, ben c'est eux qui mènent le bal. C'est eux qui tiennent les médias, c'est eux qui tiennent tout. Ils ne font pas que des mauvaises choses, parce que s'ils faisaient que des mauvaises choses, on les identifierait tout de suite. Ils font aussi des bonnes choses. Mais pas par amour, par intérêt surtout. Hein. Dieu a laissé croître le bon grain, ses enfants, et livré les fils du diable. C'est ce qui est écrit. À un moment donné, Jésus dit, non, il ne faut pas couper livré, parce que si vous coupez livré, vous risquez de couper le bon grain avec. Parce que ça se ressemble. On est tous des êtres humains, ça se ressemble. Et le jour est proche où Jésus va revenir, parce qu'il a un dessein derrière toute cette histoire. Il a un dessein, un plan. Il veut que nous, ses enfants, nous œuvrions pour son royaume afin de glorifier son nom au milieu de cet enfer qu'est la terre. Franchement, on est du bon côté de la planète ici en France, mais il n'y a pas besoin de s'éloigner beaucoup pour voir que c'est l'enfer presque partout. Maintenant, vous allumez la télévision et vous voyez tout ce qui se passe, c'est vraiment l'enfer. C'est épouvantable. C'est pas bien compliqué à comprendre, il suffit de regarder autour de nous. Nous sommes tous, ici, dans cet enfer, sur terre, où le diable et ses enfants dirigent tout ce qu'ils ont organisé. Ils ont organisé toutes sortes de choses, des religions qui prétendent toutes être la meilleure. Moi, je prétends pas avoir la meilleure religion. D'abord, je veux pas de religion. J'ai pas une religion. Je suis amoureux d'une personne. Son nom, c'est Jésus. Amen. J'aime Dieu. Mais la religion, non. J'aime mes frères et sœurs parce qu'ils aiment Jésus. Alors, il est logique que les enfants du diable essayent de nous manipuler pour nous faire adorer leur faux Dieu. Qu'on soit du moins impressionné, qu'on soit épouvanté, et même que certains perdent la foi. Il est important, mes frères et sœurs, pour vous qui m'écoutez, d'aider les enfants de Dieu, les enfants de l'amour, à ouvrir leurs yeux sur ce qui va arriver. Que va-t-il arriver? Ce que la Bible appelle le jour grand et redoutable. Ce verset-là, il se trouve dans Malachie, chapitre 4, verset 5, je vous le lis. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Grand et redoutable. Ce jour qui vient est grand pour les enfants de Dieu parce que ça sera le jour de notre délivrance. Ce sera un grand jour. Ça sera formidable. Ce sera le plus beau jour de notre vie. Mais il sera redoutable pour les fils du diable. Les fils du diable, ils sentent que ça commence à sentir le roussi pour eux. Le diable, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Et ses enfants vivent dans la peur. Ils redoutent. Ils ont peur. Ils sentent bien que quelque chose se passe. Ce jour grand et redoutable, c'est le jour de la moisson annoncée par Jésus. Ce jour où il va envoyer ses anges pour moissonner. Il va mettre l'ivraie d'un côté, il va la lier, et la foutre au feu. Pardonnez-moi, mais vous qui pensez que Jésus n'est que bon, que gentil, que doux, il est aussi juste. Et c'est normal qu'il fiche ça au feu. Il veut pas de ça dans son paradis, ça suffit maintenant. Ils ont eu leur temps, ça suffit maintenant. C'est terminé. Il va s'en débarrasser. Et je serai un des premiers à être au bord du trou en train de regarder et d'applaudir. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de tous ces abus. Il y en a marre de toute cette injustice, de toute cette iniquité, de toute cette fausseté, de toute cette méchanceté, de tous ces crimes, de toutes ces horreurs. Il y en a marre. C'est normal que Dieu, qui est amour, soit juste aussi. Qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un entrait chez votre petite maman de 80 ans, la roue de cou, la tue, pour pouvoir lui voler 100 balles? Et puis qu'est-ce que vous diriez si le juge dit « Oui, mais vous savez, il a des circonstances atténuantes, il n'était pas très bien ce jour-là, puis ses parents n'avaient pas été gentils avec lui quand il était petit, il faut avoir pitié, il faut le gracier, il faut le laisser partir. » Vous ne seriez pas content. Ça sera un juge inique, un juge injuste. Un homme qui commet un tel crime, il mérite d'être puni. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose avec Dieu. Il punira ceux qui n'obéissent pas à ses cinq commandements. C'est normal. C'est pourquoi, pour eux, c'est un jour redoutable. Ce jour grand et redoutable se produira quand Jésus enverra ses anges, tels des moissonneurs, pour chasser de son royaume tous ceux qui ne sont pas les siens. Il gardera que les siens, et on vivra éternellement avec lui. Il n'y aura plus de diable, on ne sera plus tenté. Ça va être, on a de la peine à imaginer, hein, parce qu'on est né dedans, hein, on a de la peine à imaginer, mais ça va être bien. Mais avant cette moisson, faite par des anges célestes, c'est des anges de Dieu, des anges célestes qui vont faire ça, ben, il y aura un prémisse à cela. Il y a toujours un prémisse à tout. Tout ce que Dieu fait, il y a d'abord le prémisse de la chose, comme une espèce de répétition générale. Et ce prémisse, ben, on le trouve dans Apocalypse 11, 3, 6. Et je vais vous le lire. Apocalypse 11, 3, 6. Voilà ce qui est dit. Il enverra deux témoins, Dieu. Et je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sortiront de la bouche et dévoreront leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer l'eau, les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Donc il y aura des personnes humaines, ces deux témoins, moi je les identifie comme étant Enoch et Élie, parce que Enoch et Élie ne sont pas morts, ils ont été enlevés, et la Bible dit que tout homme doit mourir. Donc, ils seront mis à mort au bout de leur temps, mais sur cette terre, mais d'abord, ils feront toutes ces choses. Ils tueront des gens. De d'où Jésus? Et ce d'où Jésus un peu efféminé qu'on voit sur des représentations où on le voit avec ses joues roses en train de frapper à la porte, il a l'air mignon, gentil, ouais, oui. Mais il enverra ses deux témoins et leur donne le pouvoir de tuer quiconque s'opposera à eux. Ça sera pas de la rigolade. Ça sera pas des bisounours. Ils tueront ceux qui s'opposeront à eux. Oh Michel, qu'est-ce que tu nous dis là? Je vous dis ce que je dois vous dire. J'ai été appelé à prêcher la parole de Dieu, je prêche la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est pas qu'une bonne nouvelle, c'est aussi une mauvaise nouvelle. C'est, il y a un jour grand, mais aussi qui est un jour redoutable. De quel côté vous êtes, ça, ça vous regarde. Des millions de chrétiens sont aujourd'hui même, en ce moment, dans toutes sortes d'églises, louant Dieu, chantant des cantiques, priant pour la paix du monde. Ils prennent le pain, le vin ou l'hostie. Ils ne savent pas que le jour grand et redoutable, c'est pour notre génération. Je dois vous le dire, je vous le dis. C'est pour notre génération. Jésus a dit que la génération qui verrait Israël redevenir une nation, c'est la génération qui verra le retour de Jésus. Ben, Israël est redevenu une nation en quelle année? En 1948. Et moi, je suis né 2 ans après. Ben voilà. Et vous? Ben, vous êtes de cette génération qui... Vous savez que ça fait des milliers d'années qu'Israël n'était plus une nation. Ils ont toujours été occupés par toutes sortes de gens. Et là, depuis 48, ils sont une nation. Nous verrons le retour de Jésus. Mais avant de voir le retour de Jésus, on verra les deux témoins. Alors, faites ce que Jésus dit, alors que nous sommes encore dans sa grâce, il pardonne encore. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi et pratique les premières œuvres, c'est-à-dire les œuvres de l'Église primitive, selon Actes chapitre 2, et Actes chapitre 4, que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. Si vous avez peur, c'est pas bon signe. Il faut pas avoir peur. Il faut être simplement réaliste. La Bible, c'est pas un bouquin qui raconte des jolies petites histoires. Non, ça raconte la vérité. La vérité, c'est ça. Ça va arriver. Comme tout ce qui est écrit est arrivé, ça, ça va arriver aussi. N'ayez pas peur, simplement, si vous n'êtes pas en ordre, bah, repentez-vous. Et pratiquer les premières œuvres de l'Église primitive. Alors, je vais vous donner un indice si vous ne savez pas comment faire. Ben, vous m'écrivez, et puis on se donne rendez-vous. Dans le coin là où on habite, il y a plein de maisons qui ont été abandonnées, parce que avec le Brexit, les Anglais qui habitaient là, ben, ils sont rentrés chez eux. Il y a plein de maisons, il y a même des villages entiers qui sont abandonnés. Et qui sont en parfait état, et qui sont pas chers. On pourrait créer des communautés. Il suffit d'être 2 ou 3 couples, et puis ça y est, voilà, vous êtes une communauté. Pourquoi est-ce que vous voudriez pas vivre ça? Pourquoi vous voudriez pas faire la volonté de Dieu? Pourquoi est-ce que... Quel est l'esprit qui vous empêche de le faire? Alors, n'ayez pas peur, souvenez-vous d'où vous êtes tombé, repentez-vous, et pratiquer les œuvres qui se pratiquaient au début, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de bénir ces paroles. Permets que mes frères et sœurs prennent conscience de ce que je leur dis, prennent conscience que c'est la vérité, qu'ils n'aillent pas s'imaginer que je me prenne pour Élie ou quoi que ce soit. Non, non, non. Je suis simplement un frère, un prédicateur. Et je dis simplement ce que la Bible dit, et je te prie qu'ils prennent au sérieux ce que tu dis dans ton livre, dans le seul livre inspiré. Au nom de Jésus, mon Dieu, je te prie. Amen. Amen. Au revoir.